Vous aimez l'Évangile? Amen.
Amen.
L'Évangile est une puissance de vie. Et je me réjouis du chant qu'on a chanté, c'est « Il n'y a personne comme Jésus ». C'est vraiment un chant qui parle de l'Évangile. Et pourquoi on dit qu'il n'y a personne comme Jésus? Pourquoi on le dit? Qui est né comme Jésus-Christ? Personne. Avant d'être né, déjà, il existait. Bon, à part peut-être certains farfelus qui disent qu'ils ont une vie avant qu'ils arrivent, mais Jésus-Christ est celui qui est né comme personne. Jésus-Christ est celui qui a aimé comme personne. Il a donné sa vie. Jésus-Christ est celui qui est mort comme personne. Et Jésus-Christ est aussi celui qui est ressuscité comme personne. Il n'y a personne comme Jésus. Amen. Je voudrais vous introduire dans un texte, donc dans Luc au chapitre 24. Et ce matin, on va vraiment mettre nos yeux dans l'Évangile. Hein. Il y a un titre sur l'Église, c'est « Église de la bonne nouvelle », « Église évangélique ». Et ce que nous voulons, c'est proclamer, prêcher l'Évangile. Hein, que l'Évangile soit annoncé, que l'Évangile vienne dans nos cœurs, que Jésus-Christ vraiment fasse son œuvre. Parce qu'on a un Dieu qui est vivant, un Dieu vivant. Luc, chapitre 24. Merci aux personnes qui s'occupent de la sono, c'est vraiment une grâce d'avoir des gens qui s'occupent de toutes ces choses techniques. La technique, vous savez, si elle est mal réglée, c'est catastrophique. Par contre, c'est une bénédiction quand c'est bien réglé et que ça apporte vraiment quelque chose à l'Assemblée. Alors, Luc, chapitre 24, donc du verset 1 au verset 12. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent à la tombe de grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus-Christ. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Et ces hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle, le dire aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau, et en se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qu'il était arrivé. Nous sommes dans une période de transition. C'est la période de la rentrée. Et pour beaucoup d'étudiants, de collégiens, de lycéens, d'enfants, eh bien, vous êtes passé d'un temps de vacances à un temps de reprise d'activité. Vous retournez à l'école pour certains, dans le lycée. Et pour certains, vous allez retrouver soit une nouvelle classe, soit que vos anciens amis, vous ne les retrouvez pas. Vous retrouvez un nouvel établissement. Et quelque part, il y a des pertes de repères. C'est un moment de transition. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que notre parcours terrestre est fait de moments de transition. Hein, on passe, un moment de transition, c'est de passer d'un état à un autre. D'une étape à une autre. Pas d'un état, mais d'une étape à une autre. Donc, notre parcours terrestre est fait par des moments de transition. Je ne sais pas si actuellement, vous qui êtes ici, vous vivez des moments de transition. Mais souvent, dans ces moments de transition, on a souvent la facilité de voir et de mesurer ce qu'il y a derrière nous, mais on a plus de mal à mesurer ce qu'il y a devant nous. Et même des fois, ça peut nous terrifier ou nous donner de l'angoisse. Alors, je vais vous parler de certaines étapes dans l'existence. La première étape, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais c'est notre naissance. Raphaël aurait pu nous en dire deux mots. Elle a essayé. La première étape, c'est celle de la naissance. Qui s'en souvient ? Personne. Donc, c'est une étape où on était au chaud, tranquille, on n'avait pas besoin de respirer, on était nourri, les sons violents de l'extérieur étaient atténués, et à un moment, il faut sortir. Et puis là, il y a une ambiance froide, on vous coupe le cordon, il y a la pesanteur qui vient sur vous, et puis il faut respirer. Je ne sais pas si on peut réaliser le traumatisme que ça doit être, on ne respirait pas, puis d'un coup, il faut respirer. Ça, c'est une étape. Ensuite, il y a d'autres étapes dans la vie. Par exemple, les enfants qui commencent à vous dire « Écoute, je ne suis plus un bébé. » Donc ça, c'est l'étape où l'enfant commence à sentir qu'il a une certaine autonomie. Devenir majeur, ça aussi, c'est une étape. Passer à l'âge adulte. Tout d'un coup, on devient responsable de ses actes. Le mariage, c'est une étape. On était deux, et suivant la parole, on va devenir un. Donc c'est une étape. Il y a un moment de transition. Le passage à la retraite, ça aussi, c'est une sacrée étape. Pour ceux qui ont donné toute leur vie dans leur travail, ça a été vraiment comme une ambition dans leur vie, et puis d'un coup, ils tombent en retraite. Donc ça, c'est aussi une étape, c'est un moment de transition. Donc on pourrait multiplier toutes ces phases. Je vous parle de cela parce que ça rentre dans nos habitudes. On a pris cette habitude de passer d'un point à un autre. On a cette habitude de laisser des choses derrière nous et de se dire que c'est fini. Et on a un peu cette conception de l'existence que, en fin de compte, l'existence, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque part perdre certaines choses et d'en gagner d'autres. On perd certaines choses et on gagne en maturité, en expérience, en autonomie. Et suivant cette structure, on le sait tous, on a tous conscience que l'étape ultime, ça sera quoi ? Ça sera la mort. Je ne vous dis pas ça pour vous donner un point négatif, mais c'est pour vous dire qu'on a cette logique. On a cette logique, on passe, on laisse des choses derrière nous, on dit que c'est fini et on passe sur autre chose. Et le Christ nous dit que cette façon d'être, on est des humains, on a tous, ça nous induit en erreur. Et le Christ veut inverser cette logique. Il veut inverser cette logique. Dans le passage que je vous ai lu, les anges, même si ce n'est pas marqué les anges, mais dans d'autres passages c'est marqué les anges, disent à ceux qui viennent au tombeau, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? En gros, qu'est-ce que veut dire les anges ? Pourquoi pensez-vous que tout est fini ? Pourquoi pensez-vous que tout est fini ? On est tellement habitués de passer d'un point A à un point B, qu'on se dit « oui, tout est fini ». On a vraiment cette habitude. Oui, je ne suis plus un enfant. Oui, je ne suis plus un adolescent. Oui, je ne suis plus peut-être un employé. Oui, je ne suis plus un célibataire. Et on a cette habitude-là. Et quand Jésus meurt à Golgotha, tous ceux qui ont été enseignés par lui... tous ceux qui ont vu son ministère pendant 3 ans, tous ceux qui ont été enseignés par lui, tous ceux qui ont vu que Jésus relevait les gens, il guérissait les gens, ces gens-là, ils ont du mal à croire que l'histoire n'est pas finie. Ils ont du mal à croire que l'histoire n'est pas finie. C'est un petit peu les disciples comme s'ils avaient vécu une belle aventure. Ça a été sympa. On va passer à autre chose. Et vous le voyez avec Pierre. Moi, ça m'a toujours interpellé. C'est dans l'évangile de Jean. Jésus-Christ ressuscite, il se présente aux disciples. Et avant de se présenter à Pierre, Pierre ne l'a pas encore rencontré, il nous a dit, Simon Pierre dit aux disciples qui étaient autour de lui, « Je vais pêcher. » Hein. Jésus-Christ était crucifié. Simon-Pierre était comme dans une certaine désespérance. Il s'est dit, puisque c'est ça, je retourne à mes travaux, je retourne à mon entreprise. C'était un chef d'entreprise, il avait des barques, il était pêcheur. Et puis il dit, je vais pêcher. Et puis les disciples vont avec lui. Quelque part, il y avait cette notion que tout était fini. On le voit aussi avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchèrent vers Emmaüs et puis Jésus vient les rejoindre. Et c'est aberrant parce que les disciples disent, oui, le Christ a été tué. Et ils l'expliquent même à Jésus. Mais il est mort. Ils disent à Jésus qu'il est mort. Vous êtes tellement persuadés que tout est fini que vous n'arrivez même pas à voir que Jésus est à côté de vous. Amen. Ils n'arrivent même pas à voir que Jésus était à côté. Persuadés que la puissance de la mort était plus forte et ils ne voyaient pas que Jésus-Christ était à côté d'eux. Est-ce que vous ne pensez pas que des fois on est ainsi, hein ? Soyons honnêtes. Des fois on a l'impression qu'on est comme ça. Jésus-Christ est à côté de nous et alors que il est vivant et nous, on ne le perçoit pas. En fin de compte, tellement persuadés que tout était fini, le Christ nous donne ce message que ce n'est pas fini, c'est la mort qui est finie. La mort est finie. Tout est fini pour la puissance de la mort. Amen. Tout est fini pour la puissance de la mort, mais Jésus règne sur la vie et il donne la vie. Donc, ce n'est pas tout est fini. Je vais vous encourager ce matin, si quelqu'un passe par des moments de transition, ce n'est pas tout est fini, mais tout est accompli. Tout est accompli, on a chanté la croix, on a chanté l'évangile, tout est accompli. Je veux le prononcer ce matin, Gilles le disait dans sa prière, Dieu n'est pas sourd aux malheureux, aux gens qui ont soif. Il y a des âmes qui ont soif de recevoir cette vie pleine. Dieu est le Dieu de la vie, Dieu est vivant, amen, il est ressuscité, il n'est pas mort, il est à côté de nous, il est là dans ce lieu. Tout est accompli. Tout n'est pas fini, mais tout est accompli. Tout est accompli pourquoi ? Pour dire que la vie n'est plus simplement terrestre. Elle est aussi éternelle. Quand on dit « je vais te préparer une place », on le dit souvent ce verset, c'est quoi ? C'est parce que ce qu'on fait là sur terre, Jésus prépare quelque chose par rapport à cette vie éternelle qu'on a reçue. La vie éternelle, ce n'est pas uniquement quand on va mourir. La vie éternelle commence quand on reçoit le Christ en nous. Il est le premier-né d'entre les morts. Amen. Il passe de la mort à la vie. Et il nous faut, pour moi, c'est un chamboulement. Il faut on a tellement l'habitude de vivre dans cette société qu'il y a des moments où il faut tout retourner dans notre tête. Hein. Parce que nous pensons que des fois, la vie, c'est de devenir forcément des adultes. Eh bien, Jésus, il y a des moments où il nous dit « revenez comme des petits-enfants ». On se dit, peut-être d'une façon imagée, peut-être que quelqu'un se dit ce matin, là, si ça continue, je vais mourir. Et il nous dit, tu vas vivre. Il nous dit aussi, c'est pas possible, si je continue, je vais droit dans le mur. Mais Jésus-Christ, qui est le ressuscité, dit, non, tu vas ressusciter. Tu vas réussir avec moi. On peut se dire aussi, c'est pas possible. Quand je vois les actualités, j'ai l'impression que c'est Satan qui dirige le monde. Hein ? Et le Christ veut dire non, regarde pas cela. Dieu est en train de préparer toute une foule de gens à être sauvés. Est-ce que vous le croyez ça ? Et il n'y a jamais eu autant de chrétiens aujourd'hui qu'il n'y a eu auparavant. Il n'y a jamais eu autant de gens à reconnaître que Jésus-Christ est le vivant. Jamais dans toute l'histoire. J'avais entendu une statistique, bon, je ne sais plus trop ce qui avait été dit, mais de mémoire, c'est que depuis l'arrivée de Jésus-Christ jusqu'à 1900, il y a eu plus de convertis dans le dernier siècle que ce qu'il y a eu de Jésus-Christ jusqu'à 1900. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens aujourd'hui sur notre terre. Et c'est vrai que nous, et c'est pour ça aussi que je peux proclamer, je sais qu'on avait eu une conversation avec un frère, et ça donne aussi à réfléchir quand on a des conversations, hein, ça donne à mûrir. Et il y a un chant qui nous dit « Jésus-Christ est Seigneur des nations. » Il est Seigneur de la nation. Et moi, je veux le proclamer, ça. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire « Oui, mais quand tu vois les gouverneurs, ils ne sont pas à Christ. » Oui, mais ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas celui qui est de la nation. Il est là, il règne. Tout a été fait pour le Seigneur. Donc Jésus-Christ est Seigneur des nations. En France, on a un peu une vision déformée parce que on a l'impression que les églises sont uniquement pleines, remplies que durant des jours de fêtes religieuses. Et on a un petit peu cette vision déformée. Mais partout, la foi chrétienne grandit. La foi chrétienne grandit d'une façon démesurée. En Corée du Sud, il y a quelque temps, en 1950, il n'y avait qu'un pour cent, un seul pour cent de chrétiens. Et aujourd'hui, ils sont 60% de chrétiens. On n'a jamais eu autant de gens qui sont persuadés qu'il ne faut pas chercher un Jésus mort. Ça, vous êtes persuadés, il ne faut pas chercher un Jésus mort. Vous savez, le Jésus des philosophes, ou le Jésus des humanistes, le Jésus qui, il y a longtemps qu'il a parlé, il a dit de très belles choses, mais ça, il y a longtemps. Non, je vous parle du Jésus des évangiles. Je voudrais faire une parenthèse par rapport aux évangiles. Les évangiles, ce n'est pas une biographie. Les évangiles, ce n'est pas la biographie de Jésus-Christ. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas, voilà, Jésus se levait le matin à telle heure, il mangeait telle ou telle chose. Heureusement, parce que les hyper-spirituels, ils auraient peut-être essayé de manger ces choses-là pour ressembler davantage à Jésus-Christ. L'évangile, ce n'est pas une biographie. On en voit beaucoup, des hommes qui ont marqué la société, et puis on fait un livre, après, une biographie de cet homme-là. Non, ceux qui ont écrit les évangiles ont été inspirés par Dieu. L'Esprit les a inspirés parce qu'il y avait un message à proclamer, un message à donner. Et les évangiles, ce n'est pas une biographie, c'est une puissance de vie. Amen. Je pense qu'il faut qu'on prêche l'évangile, il faut le prêcher encore et encore. Donc il ne faut pas chercher un Jésus mort, mais un Jésus vivant. Et si on cherche au tombeau, ben, pas de chance. Ce n'est pas la bonne adresse, le tombeau est vide. Donc, c'est vrai qu'il faut tout changer dans notre mentalité. Tout n'est pas fini. Si quelqu'un qui venait ce matin en disant c'est telle ou telle chose, c'est fini, non, tout est accompli. Dieu veut te donner une nouvelle vie. Et on peut regarder ce verset dans 2 Corinthiens 5, 17 sous cet angle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est accompli, une nouvelle créature. Non pas la mort, mais la vie. Il n'est pas dit non plus que ce qui est ancien ne demande pas une intervention de Dieu. Au contraire, il en fait quelque chose de nouveau. Dieu aide, Dieu nous aide d'une façon globale. Vous savez, on est dans un pays où il y a, et surtout dans une région, où il y a un pourcentage de personnes qui veulent mettre fin à leur vie. Et quelque part, on peut les comprendre. Il y a des gens qui veulent mettre fin à leur vie parce qu'ils n'en veulent plus de cette vie-là. Ils ont telle ou telle chose, ils n'en veulent plus, et on peut les comprendre. Mais ce qu'on sait, nous, c'est que Jésus-Christ veut en donner une autre. Il veut nous donner une autre vie. Donc, les choses anciennes, des fois, on peut les reconvoquer, mais pas de la bonne manière, non pas d'une façon renouvelée. On les reconvoque, et ces choses anciennes-là, elles viennent dans la vie. Et puis elles deviennent comme obsessionnelles. Non, le Christ nous donne de voir les choses d'une façon nouvelle. L'Évangile ne dit pas que notre passé, c'est ce qui va déterminer notre vie actuelle avec Jésus. On le voit beaucoup dans les Évangiles, il y a cet homme qui est au bord de la piscine de Bethesda, et le Christ intervient auprès de cet homme-là, mais il ne lui demande pas ce qu'il a pu vivre ou faire quoi que ce soit. Au contraire, il lui a offert ce qu'il demandait à l'instant T. Donc l'Évangile, ce qui détermine notre vie, ce n'est pas notre passé. C'est le Seigneur qui détermine notre vie. Est-ce que vous le comprenez ça? Qu'est-ce qui détermine notre vie? C'est le aujourd'hui. Jésus-Christ, il est appelé le « je suis ». C'est-à-dire qu'il est présent là. Bon, j'espère que vous ne pensez pas déjà au rôti qui est dans le four, mais vivez le temps présent là, là. C'est vrai, on est toujours en train de passer d'une étape à une autre. Et le Christ, il veut nous réveiller. Il dit, je suis le « je suis », le présent. C'est peut-être ça la prière continuelle. La prière, comme la parole nous le demande, ce n'est pas continuel, mais c'est prier sans cesse. C'est-à-dire d'être là, dans la présence de Jésus. Donc, qu'est-ce qui nous détermine? Ce n'est pas notre passé, c'est notre vie avec Jésus-Christ. Trop souvent, je trouve qu'on renomme des actes passés. Hein, des fois, on peut dire, tiens, regarde, cette personne-là, c'est un ancien alcoolique. Cette personne-là, c'est une ancienne prostituée. Lui, c'est un ancien divorcé. Et on a souvent ces choses-là. On remet le passé. Non pas que Jésus-Christ ne veut pas intervenir à ce niveau-là, mais je pense qu'on a besoin d'être renouvelé dans nos pensées, dans notre foi, et d'annoncer l'Évangile qui est une puissance de vie, je le répète. Donc attention, je ne dis pas d'être à l'écoute de votre vie, il faut être à l'écoute de votre vie, passé, présent, avenir, mais avec une lecture face aux Évangiles. Vous savez, des hommes peuvent nous aider à guérir dans notre présent. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent nous accompagner dans notre présent. Mais Christ, lui, arrive même à nous guérir dans notre passé. Hein, des choses qu'on a pu hériter, des choses qu'on a pu avoir. Jésus-Christ est là pour nous guérir aussi dans notre passé. Ça, c'est incroyable. Il y a en effet création nouvelle, et ça, c'est une régénération, par laquelle nous redevenons simplement nous-mêmes. Est-ce que vous êtes convaincu que le passage sur cette terre a fait qu'il y a des choses qui ont été déformées en nous? Dieu nous donne une âme, et cette âme, des fois, elle est pas comme on devrait l'avoir. On l'a déformée suite à des circonstances dans la vie, mais Jésus-Christ veut vraiment qu'on retrouve l'âme que Dieu veut nous donner. Donc si dans ces moments-là de changement de ta vie, dans des étapes de basculement, tu veux te laisser conduire par la désespérance, eh bien accueille simplement le message de l'Évangile, là, dans ce lieu-là où tu te décourages, là où tu te sens perdu, là où tu te dis, ben, écoute, je ne sais même pas ce que l'avenir me prépare, eh bien accepte tout simplement le message de l'Évangile dans ces lieux-là. Bien sûr, il y a des choses qui meurent. Il y a des choses qui meurent. Mais les choses qui meurent, ça sert comme un terreau. C'est un terreau pour que Dieu puisse mettre une graine et faire pousser quelque chose. Voilà, donc on cherche au tombeau, mais ce n'est pas la bonne adresse. Il ne faut pas chercher Jésus au tombeau. Il ne faut pas qu'on la cherche non plus dans certaines pensées morbides, négatives, occultes. Non, Jésus-Christ n'est pas au tombeau. Il ne faut pas chercher Jésus dans une religion, une religiosité, parce que ce sont des voies de mort. La religion colle très, très facilement à l'être humain. L'être humain est religieux par nature. Quelqu'un disait que les convertis d'aujourd'hui seront les pharisiens de demain. Et c'est vrai qu'on a cette tendance. On a besoin vraiment de se remettre en cause. Et ça, c'est un travail énorme sur soi. Donc ne cherchez pas parmi les morts. Et je veux prononcer, avec l'autorité de Christ, ce message sur tous vos lieux de découragement, vos inquiétudes, et peut-être aussi tous les espaces de votre vie où la mort pourrait rôder. Je veux proclamer ce message sur tous les lieux où la mort dans votre vie pourrait rôder. Je vais continuer avec deux petits points. Ça va être très court. Mais j'aimerais que, déjà, là, si on pouvait se lever, prier pour ces lieux de découragement, ces lieux où la mort pourrait rôder, eh bien, si on pouvait prier. Je demanderais à Jean-Luc, on va tous se lever, et puis j'aimerais que tu pries. Et qu'on se pose aussi devant Jésus-Christ. Et après, je vais continuer sur mon message.
Amen, Seigneur.
Avec tout.
Oui, Seigneur, tu as triomphé du péché, de la maladie, de la mort. C'est pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, en ton nom, je veux prononcer sur chacune de nos vies. Oui, Seigneur, tout ce qui nous a entraînés vers la mort, la maladie, le découragement, que tous les lieux de découragement soient maintenant liés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu as triomphé de ces choses, Seigneur. Tu as triomphé pour nous entraîner dans une vie nouvelle. Une vie que nous ne pouvons même pas imaginer. Seigneur, tu es celui qui est pour aujourd'hui. Tu es notre réconfort, tu es notre assurance, Seigneur. Oui, Seigneur, gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que tu as mis sous tes pieds et tu mets sous nos pieds, Seigneur, tous les lieux de découragement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen. Je vais continuer sur quelques exemples tirés de l'Évangile. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le texte de Luc 24. Vous allez peut-être me dire que c'est un détail, mais c'est les bandelettes. Les bandelettes. Alors, je vais m'expliquer. Donc, Pierre trouve les bandelettes par terre dans le tombeau. Et nous avons prononcé ce chant que Jésus-Christ, eh bien, il n'y a personne comme Jésus. C'est le seul ressuscité, le premier-né parmi les morts. Mais pourquoi on dit ça ? On pourrait dire, les ressuscités, il y en a eu. Hein. Au moment du calvaire, il nous est dit que la terre a tremblé et puis que les morts sont sortis des tombeaux. Il y a eu des ressuscités. Alors pourquoi on dit qu'il n'y a personne comme Jésus alors qu'il y a eu des ressuscités ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces ressuscités aujourd'hui ? Ils sont morts. Et le seul qui soit ressuscité et vivant pour toujours, c'est qui ? C'est Jésus. Amen. Donc, et pour moi, il y a une preuve de cette puissance en Jésus, le seul ressuscité, le premier-né parmi les morts, c'est à travers les bandelettes. Donc c'est le seul qui peut nous délivrer des liens de mort, des choses qui nous découragent, des choses qui veulent nous tuer, nous atténuer. Et dans Jean chapitre 11, bon, si vous voulez le prendre, vous le prenez, mais c'est par rapport à Lazare. Jean chapitre 11, au verset 43 et 44, Je prends ce texte pour expliquer quelque chose. C'est vrai que le sens premier n'est pas forcément cela, mais il y a quelque chose d'intéressant de voir quand même dans ces versets. Donc déjà, il est intéressant de voir que c'est sur la parole de Jésus que Lazare sort. Donc Lazare est ressuscité, Lazare sort. Jésus dit d'une voix forte, Lazare sort. Et Lazare, le ressuscité, est désigné dans ces versets comme, non pas le ressuscité sorti, mais comme le mort sorti. Vous allez me dire, c'est des détails, mais vous allez comprendre par la suite. Le mort sorti, les mains, les pieds et les mains liés. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Je crois que dans nos communautés, nous avons beaucoup de ressuscités. Hein, comme je vous le dis, une nouvelle créature, Jésus-Christ est venu toucher notre cœur, des choses nouvelles, mais... Ce verset qu'on prenait tout à l'heure, les choses nouvelles, mais ça continue d'être nouveau aussi. Il y a une question de continuité. Les choses nouvelles et ça continue à devenir nouvelles. Donc, il y a beaucoup dans nos assemblées de ressuscités, mais qui ont l'apparence des morts. Parce que jamais personne les a déliés. Jamais personne les a déliés. Un peu comme Lazare. Il y a une résurrection qui est là. Mais il est comme mort. Il est marqué le mort sorti. Et il y a beaucoup, je pense, dans nos assemblées, dans nos communautés, des gens qui sont ressuscités, mais qui ont besoin d'être déliés. Un mort qui ressuscite ne peut pas se délier tout seul. Il a des bandelettes de la mort qui est autour de lui, mais le passage de Pâques que je viens de vous citer tout à l'heure, il nous est dit que les bandelettes, elles étaient par terre. Donc Jésus-Christ est le seul ressuscité. Jésus-Christ est le seul ressuscité. Il est le seul qui peut nous délier des liens de la mort. Il est le seul ressuscité. Les autres leaders de différentes religions, il n'y a personne qui est comme Jésus-Christ. Tous les leaders des autres religions, je ne vais pas les nommer, mais ils sont tous morts. Mais le seul qui soit vivant, c'est Jésus-Christ. C'est ça la différence avec le christianisme, c'est qu'on a un Dieu vivant. Ô mort, où est ta victoire ? Et en reprenant Lazare, je crois que le diable nous met dans des bandelettes. Il nous lie de beaucoup de manières. Il nous lie de telle ou telle manière. Et c'est souvent que nous avons affaire à des femmes et des sœurs, des frères et des sœurs qui n'ont jamais été déliés. Et quelque part, si vous regardez cela, c'est quand même le... Je vais attendre un peu parce qu'il y a la concurrence. Et si on regarde ce passage-là, Jésus dit « Déliez-le ». C'est la responsabilité des frères et des disciples d'aller délier. Est-ce que vous croyez ça? Déliez-le. Mais d'une bonne façon, on ne va pas lui dire « Tiens, tu as une petite tache sur le nez, là, je vais te l'enlever. » Déliez-le. On a besoin de prendre cette parole, déliez-le. Donc ce n'est pas le travail de Jésus, c'est le travail des disciples. C'est la responsabilité des uns et des autres, de délier les gens. Et on a besoin d'être déliés. Il y a une parole dans le Nouveau Testament qui dit « Vous vous rassemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Et je crois que si on devient pire, c'est parce qu'on n'a pas été délié. Il y a beaucoup de ressuscités, mais qui ont encore l'aspect des morts. Et je le dis avec encouragement, surtout ne soyez pas accablés si vous êtes liés par quelque chose, mais on croit à la puissance de Jésus-Christ pour nous délier de toute chose. Amen. Et le dernier passage que je veux vous donner, j'ai pourtant mis des numéros sur mes feuilles. Ah, si, c'est là. Peut-être que quelqu'un ce matin se dit, écoute, moi je ne me sens pas mort, je suis pleinement vivant. Mais la Bible nous donne aussi des exemples, non pas uniquement de personnes qui sont passées qui sont entièrement décédées et mortes, mais elle nous parle aussi la parole de portions, de certaines portions de la personne qui sont mortes. Alors on va faire une lecture dans Marc au chapitre 3. Du verset 1 à 6. Marc chapitre 3, verset 1 à 6. Et il entra de nouveau dans une synagogue, donc c'est Jésus. Il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Et ils l'observèrent, c'est les contestataires, c'est tous ceux qui sont ennemis à Jésus-Christ, ils observèrent Jésus pour voir si le jour du sabbat, il le guérirait afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et viens ici au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisèrent. Et après avoir porté ses regards sur eux, tout autour avec colère, étant attristé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main, et il étendit, et sa main fut guérie. » Amen. Un beau passage de l'Évangile. Dans Marc, dans les premiers chapitres, il nous est parlé d'un lépreux qui a été guéri. Et c'est vrai que le lépreux, c'est encore quelque chose de différent. Le lépreux, c'est quelque chose de visible, quelqu'un qui a une maladie qui est visible. C'est quelqu'un qui a besoin d'une révélation que Dieu n'a pas honte de lui. Si je veux donner une image, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait un problème avec l'alcool, qui rentre dans l'assemblée et puis qui titube. Donc on voit, il y a un souci, il y a un problème. Mais là, dans Marc 3, il nous est parlé de l'homme à la main sèche. Et l'homme à la main sèche, la particularité, c'est qu'il peut faire, certaines choses. L'homme à la main sèche peut faire certaines choses. Il peut venir à l'église, il peut chanter. Il peut travailler pour Dieu, il peut lire sa Bible, il peut témoigner, il peut même avoir un témoignage chrétien autour de lui. Il peut servir, il peut apprendre des versets par cœur, il peut même, quelque part, porter un vêtement un peu plus long. Et puis s'asseoir auprès des uns et des autres et on ne s'aperçoit de rien. Mais dans cet homme, eh bien, il y a quelque chose en lui qui est sec. Il y a quelque chose en lui qui a perdu de la vie, il y a quelque chose en lui qui est mort. Et Jésus aurait pu lui dire des milliers de choses, des tas de choses. Il aurait pu lui dire, écoute, voilà, il faudrait que tu lises tel passage, il faudrait que tu fasses telle chose, il faudrait que tu t'engages avec moi dans telle chose. Non, dans un moment de vérité, Jésus-Christ va l'appeler et il va l'appeler sur ce qui le terrorise le plus. Étends ta main. Étends ta main. Donne-moi ta main. Donne-moi ce qui est mort en toi. Donne-moi ce qui te fait mal. Donne-moi ton âme qui est assoiffée, qui est sec. Donne-moi ta louange qui n'est plus revitalisée. Donne-moi ton enthousiasme. Donne-moi ta passion. En fin de compte, donne-moi cette portion de ta vie qui est mort. Jésus-Christ, ce qu'il veut faire à travers ça, c'est non pas exposer la personne pour l'exposer. Son but ultime, c'est vraiment de guérir, et de ressusciter cette portion qui est morte. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut donner ? Donne-moi ce qui te fait mal, donne-moi ce qui te rend captif. Donne-moi cette part en toi qui est morte. Donne-moi ce qui est sec en toi. On a besoin de s'encourager, on a besoin de venir tout simplement à l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Donne-moi ce qui te fait mal. Donne-moi ce qui est sec. Tu as besoin d'être délié de certaines choses. Viens à moi, d'une façon simple. J'aurais terminé sur ce passage. Après, on va prendre un chant qui nous dit que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants ? On ne va pas prendre beaucoup de temps, mais... J'aurais m'adresser peut-être à une personne ici dans l'Assemblée qui se sent interpellée par le message simple de l'Évangile. Si je suis sur l'estrade, ce n'est pas parce que je suis la crème des crèmes. Hein. C'est parce que Jésus-Christ veut se servir de canot. Et là, je prie pour que ce message qui vient de... Ce message de l'Évangile, non pas une personne ou qui que ce soit, mais que l'Évangile qui a été prononcé, cet Évangile de vie, vienne en toi ce matin. Que peut-être que quelqu'un est venu ce matin et pensait que tout est fini. Peut-être qu'il y a une phase de transition et tu ne vois pas l'avenir, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir et tu te dis tout est fini et tu marches dans la désespérance et un peu comme Pierre et les disciples qui, eux, ont connu le Christ pendant 3 années, mais ils n'ont même pas été capables de voir qu'il y avait autre chose. Ce matin, je veux proclamer sur ta vie que non pas tout est fini, mais tout est accompli. Que Dieu vienne vraiment poser ta main sur ce qui te fait mal, ce qui est en toi. Que tu puisses repartir de ce lieu eh bien, avec cette parole d'espérance, cette parole de vie. Il n'y a personne comme Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est vivant. Il est le vivant, il est dans ce lieu, il est avec nous. On ne le dirige pas par nos paroles, parce qu'il fait ce qu'il veut. Il est esprit, il souffle là où il veut, mais nous l'accueillons. Je veux que ce matin, tu puisses accueillir l'Esprit de Dieu, cet esprit de vie, cet esprit de résurrection. Alléluia. Et je veux proclamer aussi, Seigneur, que nous ne voulons pas, en tant qu'assemblée, nous ne voulons pas tomber dans des choses morbides, mais nous voulons voir ta vie, Seigneur. Apprends-nous à être renouvelés dans nos pensées. Ce qui nous suit, Seigneur, c'est cette façon de faire, cette façon d'être, cette façon de passer d'étape après étape, que tu nous donnes de nous examiner nous-mêmes, Seigneur. Et que les uns et les autres, qu'on puisse être déliés. Déliés dans le nom de Jésus. Déliés des liens de la mort. Déliés des liens de l'hérédité. Déliés de ces choses qui te pèsent depuis des années. Tu ne sais même pas pourquoi tu es comme ça aujourd'hui. Mais il y a des liens qui sont sur ta vie. Des choses qui doivent être déliées dans le nom de Jésus. Et nous voulons prier pour cela. Que les choses, nous savons que les choses anciennes sont passées, mais tu en fais quelque chose de nouvel. Tu es là pour nous aider par rapport à ces choses qui sont pesantes, Seigneur, et tu fais de nous une nouvelle créature, et toute chose continue à devenir nouvelle. Alléluia, nous voulons vraiment proclamer ce matin une bénédiction sur les vies. Et que celui qui se sent interpellé ce matin, eh bien, qu'il puisse recevoir ce message dans son cœur. Feuille les évangiles à la maison. Laisse-toi pleinement remplir par le Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur.